Inter, le 18-20.
Avec une édition spéciale du Téléphone sonne jusqu'à 20h, analyse de l'incroyable période électorale qui s'est achevée hier avec le second tour des législatives. Le paysage politique français a été totalement chamboulé par un homme et un parti qu'il y a un an environ n'incarnait pas grand-chose et ne représentait rien. Depuis, la République En Marche a quasiment tout absorbé, les socialistes ont quasiment disparu, le parti Les Républicains résiste, mais se trouve privé de lignes idéologiques et de leaders. Autre fait tout aussi marquant, la colossale abstention d'hier, près de 58% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes, record impressionnant sous la 5ème République. Voilà quelques-unes des pistes que je vous propose, amis auditeurs, la liste n'est évidemment pas exhaustive, bienvenue dans ce Téléphone
sonne. Nicolas Demorand. Le téléphone sonne.
Elisabeth, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Inter. Nous vous écoutons.
En fait, moi, je me posais un peu la question que tous les médias parlent de l'abstention. Et je comprends que l'abstention veut dire beaucoup de choses. Mais personne ne parle de ceux qui se sont déplacés pour voter blanc ou nul. Or, ils avoisinent, je pense, les 10%, ce qui est quand même énorme aussi. Donc, voilà, ce serait bien qu'on commence à parler d'eux aussi, de façon à ce qu'il y ait de moins en moins de gens qui s'abstiennent, mais qui justement vont prouver leur désaccord ou leur désappointement en votant blanc ou nul.
Merci Elisabeth pour cette question d'ouverture à ce long téléphone sonne. Pour vous répondre, dialoguer avec vous, Karine Bécard, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à France Inter, Frédéric Savicky, bonsoir. Professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Vincent Tibéri est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et vous êtes professeur des universités associées à Sciences Po Bordeaux. On termine le tour de table avec Roland Kayrol, monsieur le directeur de recherche associé au CEVIPOF. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il y avait déjà une abstention colossale. Y ajouter les votes blancs et nuls, ça permettrait de préciser encore la photo ou le désarroi démocratique. Qui veut en dire un mot, Roland Kayrol?
Oui, je veux bien. Je pense que notre auditrice, Elisabeth, a raison, qu'il convient de prendre en compte aussi cette très importante montée des bulletins blancs et nuls. C'est évidemment une autre façon de dire qu'on ne veut pas participer au genre de match qu'on vous propose dans un second tour. Donc c'est très comparable à la montée de l'abstention tout court. Je crois que pour autant, il faut pas négliger l'abstention et dire il devrait, ce que semblait dire un peu Elisabeth, ça serait bien qu'il vote plus blanc ou nul. Moi je crois que dans un scrutin, on a le droit de voter. Ça veut dire qu'on a aussi le droit de pas voter. Et je ne suis pas de ceux qui pense que le vote obligatoire résoudrait les problèmes de l'image de la politique. Je pense que c'est très important qu'on ait la liberté. Et il y a beaucoup de gens qui, non pas à cause de la lassitude démocratique, comme on a dit, si les Français ça les intéresse, ils n'ont pas de lassitude et ils y vont, mais parce que...
Donc s'ils n'y vont pas, c'est qu'ils sont désintéressés.
Non, oui, désintéressés c'est le cas de certains, ou qui ne sont pas bien intégrés dans la société française. Depuis longtemps, les sociologues savent que ceux qui votent le moins, c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est les gens des catégories populaires, ceux qui sont le moins socialisés pleinement dans la société française et qui se sentent un peu tenus à l'écart par la politique. Mais c'est aussi des gens, et singulièrement dans un second tour, et singulièrement ce dimanche, des gens qui n'ont pas un candidat qui leur va au second tour et qui pensent qu'un match entre les Macroniens et le Front National, ou les Macroniens et la droite, ou les Macroniens et la France Insoumise, non.
Ça ne les intéresse pas.
C'est pas que ça les intéresse pas, c'est qu'ils ne veulent pas participer à
d'accord.
Ça.
C'est ce que je voulais dire. Hein.
Leur famille n'est pas là.
Karine Bécard.
Oui, je veux rebondir sur ça parce que je crois effectivement qu'il y a eu ce problème-là, c'est-à-dire l'offre ne séduisait pas. On ne s'est pas déplacé parce que c'est même pas tant que c'était trop compliqué. Alors il y a un petit peu, on était perdus, c'est vrai. C'est-à-dire il y a quand même ce parti assez étrange, La République En Marche ou En Marche Avant, ça vient des rangs d'anciennement la gauche, ça vient des rangs de la droite, il y a des mélanges tout à coup bizarres qui s'opèrent. Donc, au-delà de En Marche, il y a aussi voilà toute cette offre autour de Jean-Luc Mélenchon, le Front National, la gauche classique, la droite classique. On s'y retrouve pas, on trouve pas un candidat qui vous séduit. Et c'était rigolo parce que si on s'intéresse aussi à ce qui s'est passé autour de La République En Marche, on entendait beaucoup dire sur le terrain pendant la campagne, je sais pas, mais on va voir. C'est-à-dire, on n'était pas bien sûr. Macron, ça peut peut-être le faire, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Mais on n'a pas envie de s'y opposer complètement. On n'y va pas. On va voir ce qui peut se passer.
La parole au professeur Savicky.
Merci.
Prenez un ton docteur pour répondre.
J'ai utilisé ma position professorale pour prendre un peu de hauteur. Je pense que derrière la question d'Elisabeth, il y a une question fondamentale qui n'est pas simple à traiter, qui est la question de la prise en compte du vote blanc ou du vote nul, puisque évidemment le fait qu'il y ait une absence de distinction avec l'abstention, c'est qu'au fond, que les gens votent ou pas, ça ne change rien au résultat. Et on a des gens qui militent actuellement, il y a même un parti qui présente régulièrement des candidats qui promeut, disons, la reconnaissance du vote blanc. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire potentiellement que les candidats élus à un deuxième tour d'une élection qui n'auraient pas obtenu une majorité de suffrage par rapport aux inscrits, on pourrait fixer ce seuil à 50% minimum des inscrits, ne pourraient pas, par exemple, être élus. Alors, c'est évidemment, on voit bien les problèmes que ça pose, c'est qu'il faudrait refaire les élections, mais on pourrait quand même imaginer autre chose qui est de fixer un minimum. Ce minimum existe, par exemple, pour les premiers tours. Si vous n'avez pas obtenu 12,5% des inscrits, vous ne pouvez pas vous représenter à un deuxième tour d'une élection législative, mais surtout, vous ne pouvez pas être élu si vous avez obtenu plus de 50%, mais pas effectivement la 25% des suffrages inscrits. Donc là, il y a quand même des situations très étranges lors de cette élection. On a des députés, notamment parmi les Français de l'étranger, qui sont élus députés avec moins de 10% des suffrages inscrits. C'est très très peu. Les taux de participation, et je pense que si on ajoute les votes blancs et nuls, c'est encore moins, sont particulièrement bas. Et donc, du coup, évidemment, la légitimité de ce type de députés
sur des circonscriptions
gigantesques, sans doute, pose quand même problème. Et
ça m'embête la question de la légitimité, parce que c'est souvent dit, en ce moment, on n'arrête pas de parler de ça, enfin, depuis une semaine, à tous les étages. Alors voilà, après chaque élection, et puis surtout, j'ai envie de dire, un électeur, il sait qu'il doit aller aux urnes. Et donc, une fois qu'il a décidé de ne pas y aller,
et donc, justement, il y va. Quand il vote blanc et nul, il y va.
Oui, mais en tout cas, je trouve que la question de la légitimité,
la différence avec l'abstention, c'est que c'est une opinion politique, quand même, de fait de se rendre aux urnes et de dire non. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut imaginer
un jour... Mais ça pose pas un problème de légitimité, moi, je suis pas d'accord.
Si un jour vous avez un président de la République qui est élu au deuxième tour avec 25% seulement des électeurs qui sont déplacés aux urnes, vous voyez, ça peut quand même poser un sérieux problème de légitimité.
Mais dans une semaine, on n'y pensera plus. Dans une semaine, quand les journalistes politiques iront couvrir ce qui se passe à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale, on dira pas
que les journalistes n'y pensent plus, c'est une chose, mais c'est quand même le symptôme, effectivement d'un malaise.
Alors ça, je suis d'accord.
Qu'il ne faudrait pas passer sous le tapis au bout d'une semaine. Ça pose une question. Ça pose quand même une question de principe. D'ailleurs, la particularité, c'est que précisément, ça existe dans la loi. Je le citais pour le cas des premiers tours d'élections législatives. C'est bien qu'effectivement,
en
deçà d'un seuil, ça n'a pas forcément de sens.
Le professeur Tibéri est également avec nous, mais en duplex de Bordeaux.
Tout à fait. Désolé de m'initier dans le débat.
Non, pas du tout. Vous y êtes invité.
Merci bien. Mais soyons clairs. Effectivement, le problème du système électoral en général et du vote en particulier, c'est que dès lors qu'on a un élu, le système se contente de continuer tout seul. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque part, on voit bien que le vote, ça ne suffit plus pour la participation citoyenne. Si autant de gens ne se sont pas déplacés, c'est à la fois parce qu'il y a un rejet du vote en tant que système de légitimation de mode de légitimation de la démocratie représentative, et aussi parce qu'il y a d'autres moyens de participer qui, pour un certain nombre de citoyens, sont tout aussi importants et aussi efficaces. Donc il faut bien voir qu'aujourd'hui, le vote, c'est l'archétype de ce que Engelhardt appelait la participation dirigée par les élites. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de choisir à un moment donné, un candidat donné, selon des règles données, un mode de scrutin donné, et point final. Clairement, ce n'est plus simplement ça.
Puis sur comment penser des alternatives alors au processus électoral?
Alors déjà, par exemple, il faut quand même se souvenir...
Si le processus est biaisé par le fait que les candidats sont le choix des élites et que la forme même du processus est dictée, etc., etc., comment on sort de cette impasse ou de cette contradiction?
Déjà, il faut bien voir, et c'est vraiment quelque chose d'important, qu'on n'est pas dans une crise du civisme. Quand les Français sont confrontés à une élection qui leur parle, ils y vont. Quand il y a un enjeu, ils y vont pour la présidentielle, mais aussi, souvenons-nous, par exemple, du référendum européen, 69% de participation. Je pense que ça fait rêver aujourd'hui un certain nombre de députés. Et donc, il faut quand même bien voir que si jamais on permettait aux citoyens d'être considérés comme des adultes et se prononcer sur des sujets qui leur importent, vraisemblablement qu'on aurait probablement plus de participation.
On repasse au standard. Martial, bonsoir.
Oui, bonsoir Monsieur Demorand, ravi de vous entendre de nouveau ce soir. Je vous pose une question simplement pour vos invités, j'appelle de Limoges, et nous avons voté En Marche puisque nous avions deux candidats, donc elle a été élue brillamment députée, et voilà, nous faisons confiance au nouveau gouvernement, voilà, au nouveau Parlement, tout en restant vigilants parce que nous sommes de gauche et nous avons des attentes fortes en ce qui concerne le progrès social et puis bien d'autres choses encore. Je crois
vous,
que
vous, voilà. vous attendez quelque chose. Martial, vous attendez quelque chose de je sais pas comment dire de précis. Vous attendez un changement substantiel avec cette nouvelle majorité?
Ah oui, un véritable changement, mais pas contre. Contre la population, il ne faut pas qu'on continue à privilégier certaines catégories et laisser les autres sur le bord de la route.
Donc c'est un vote en marche de gauche que vous avez fait.
Un vote en marche de gauche, mais oui, oui, si on peut appeler ça comme ça, ça fait drôle, mais oui, c'est comme ça.
Pourquoi ça fait drôle, Martial?
Bah, ça fait drôle puisque le Parti socialiste s'est cassé la figure tout seul, mais enfin, je veux dire, il s'est tiré la balle dans le pied depuis Lionel Jospin, mais personne n'a tenu le pistolet, surtout pas moi.
Merci pour cette intervention qui nous venait de Limoges. C'est assez intéressant de voir comme ça. Je pense qu'on jusqu'à 20h, on en entendra d'autres, mais en tout cas, d'avoir un électeur qui nous explique pourquoi il a voté, quelle était son intention de vote, ses intentions dans le vote, Roland Cayrol, avec donc un macronisme de gauche.
Oui, c'est tout le problème du macronisme et l'enjeu de la gestion du pouvoir par Emmanuel Macron. Il nous a expliqué depuis le début que son projet n'était pas ni de droite ni de gauche, mais et de gauche et de droite. Et du centre. Et donc, tout à fait logiquement, on trouve dans ces électeurs des gens qui ont gardé une sensibilité de gauche ou de droite. D'ailleurs, la gauche et la droite continuent à parler à l'essentiel de l'électorat, y compris à l'électorat macronien. Donc, il y a des sensibilités. Il va lui falloir gérer ces différentes sensibilités. Parce que la thématique et de gauche et de droite a été puissante dans la constitution de l'électorat. C'est ce qui a d'abord séduit les Français, avant même la jeunesse, la volonté de libérer les énergies, etc. Il y avait cette idée, enfin, on va essayer de les faire travailler ensemble. Il y en avait marre de cette guerre de religion permanente, chacun dans son camp, sans de vraies discussions. C'est ça qui fait gagner, mais ça fait pas disparaître les sensibilités. Et donc, Macron, au premier tour de sa présidentielle, il avait fait un truc incroyable, il avait fait 24%, 12 venaient de la gauche et 12 de la droite et du centre. Il aurait voulu faire mieux, il aurait pas fait mieux. Donc, il lui faudra maintenant, dans la gestion du pouvoir, essayer d'entendre ce que disent les sympathisants de gauche, qui sont la moitié de son électorat personnel, et puis aussi les sympathisants de droite et du centre, qui n'ont pas non plus oublié leur propre sensibilité et qui vont aussi l'avoir à l'œil. Donc ça veut dire qu'il les a séduits les uns et les autres par un programme où il y avait des éléments qui étaient repris à chacune des traditions. Il va falloir maintenant que cet équilibrisme de campagne électorale, ils le réussissent dans la gestion des réformes.
On passe à Bordeaux avant de donner la parole à Karine Bécard, Vincent Tibéri.
Oui, ce qui est assez intéressant dans l'histoire d'En Marche, c'est que quelque part, on a la fusion à la fois d'une manière de gérer qui ressemble à l'entreprise et aussi une adéquation très très forte avec la Ve République. Quelque part, on retrouve un président gaullien, alors on parle de jupitérien, et du coup, dans l'exercice du pouvoir, je pense qu'il y a effectivement un vrai danger. C'est-à-dire que déjà, il va falloir sortir des ambiguïtés. À un moment, il faut faire des choix, et quand on fait des choix, on retombe d'un côté, hein, la gauche ou la droite, ça va être dur de faire de l'équilibre tout le temps. Et ensuite, je crains que la manière dont En Marche résonne en termes d'exercice du pouvoir soit plutôt, on va dire, une logique de l'expertise, une logique par en haut, une logique qui n'est pas forcément inclusive et horizontale. Or, il ne faut pas oublier que dans toute la campagne présidentielle, on a beaucoup parlé de cette demande-là, cette demande d'association, cette demande d'incorporation des citoyens dans toute leur diversité. Et ce n'est pas facile, hein, politiquement, c'est même le chemin le plus dur.
Karine Bécard.
Ce qui est assez intéressant d'observer vraiment pendant sa campagne présidentielle concernant Emmanuel Macron, c'est qu'au final, vous parliez tout à l'heure, Roland Cayrol, de le programme qu'il a présenté, etc. Moi, je dirais qu'il n'a pas dit grand-chose, en fait. Il avait un programme, mais il l'a pas vraiment. Quand on voit, par exemple, moi qui couvre quotidiennement la droite pour France Inter, François Fillon, on a été dans des détails, mais parfois même difficiles à suivre. Enfin, je veux dire, on était dans du détail fiscal assez redoutable. Là,
et puis
c'était
lui, il y avait
tracé...
un programme clairement inapplicable, donc c'était très clair.
Enfin bon, bref, je vous laisse juger, mais
celui-là, ça a été jugé.
Mais oui, oui, exactement. Mais en tout cas, Emmanuel Macron, on sent qu'il n'a pas voulu tomber dans les travers de ce qu'a connu, par exemple, François Hollande, ce qu'a connu avant lui Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que ça a été présenté de manière un peu plus fluide, un peu plus subtile, mais ce qui a pu inquiéter aussi les électeurs, et c'est ce que j'entends en fait dans le propos là de Martial. Alors en plus, on a le sentiment d'assister à ce parti qui n'existait pas il y a un an, c'est beaucoup souligné en plus dans les médias, donc ça donne ce sentiment de petite révolution douce, tranquille, mais révolution quand même. Et au final, eh ben, on a des électeurs et donc des Français qui s'interrogent beaucoup sur, donc on revient sur ce « on va voir » que je disais tout à l'heure, sur ce qui va se passer derrière.
Frédéric Savicky.
Il n'y avait pas vraiment de question dans la dans l'intervention de Martial. Du coup, j'en profite peut-être pour le relancer parce que ça serait intéressant.
Vous êtes là, Martial ?
S'il est en ligne.
Martial, ouais, oui, vous êtes toujours là. Alors ça, Frédéric Savicky a des questions pour vous.
J'aimerais bien finalement vous nous disiez au fond comment vous avez reçu d'une part la composition du gouvernement, la nomination du Premier ministre, le fait que tous les postes économiques aient été attribués à des gens qui sont clairement issus des Républicains, et puis aussi d'autre part le fait que la première quand même mesure importante engagée par ce gouvernement, c'est la loi travail dans une version qui, si je reprends un petit peu le message qui est le vôtre, va pas vraiment dans le sens, on va dire, social que vous escomptez du gouvernement. Alors j'aimerais bien que vous nous disiez au fond comment vous avez perçu ça et comment vous, du coup, vous continuez d'espérer que...
Alors, je peux espérer Martial. Dans le sens politique, parce qu'on ne va pas me la refaire. Je pense que Emmanuel Macron est très très intelligent, vraiment voilà, à puissance élevée. Et je pense que les premières mesures, c'est un peu pour torpiller la droite. Hein. Bon, là-dessus, la Russie. Maintenant, moi, j'attends beaucoup de deux choses. Premièrement, une véritable loi de moralisation politique, parce que là, il y en a assez de tous les gens qui piochent dans la caisse. Là, c'est vraiment terrible. Et puis, vraiment quelque chose pour le chômage, voilà, contre la pauvreté. C'est vraiment les deux axes. Hein. Si Russie
donc, pour vous, Martial, c'était comment dire, de bonne guerre et un choix tactique de prendre un certain nombre de mesures, d'établir un certain nombre de promesses pour convaincre l'électorat de droite de voter pour lui,
bah,
c'est ça?
Bien sûr, faut ratisser large. Enfin, bon, faut pas être idiot en politique. Hein. Je pense que c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Voilà.
Merci Martial pour votre intervention. Qui est en ligne au standard? C'est Jacques qui nous appelle de Fontenay-le-Comte. Bonjour et bienvenue, Jacques.
Bonjour à vous tous.
On vous écoute.
Eh bien, écoutez, moi, je vais vous donner un sentiment très profond que je ressens.
Oui.
Je pense que ces présidentielles, depuis les primaires, me laissent un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de frustration, parce que ce ne sont pas de vraies élections. Ça a été une sorte, il y a eu des tours par élimination, et puis on a continué à éliminer comme ça, un peu comme si on faisait la lessive, on jette un tel, on balance l'autre, on ne sait plus. Si vous parliez des programmes avec les gens, bon, les programmes de M. Macron, une fois j'ai dit à quelqu'un, en fait, vous me dites que la France en marche piétine. Alors, il me dit, oh, c'est pire, c'est la France en marche arrière. Hein, bon, je dis, mais c'est bien. Et vous votez toujours pour M. Macron? Il me dit oui.
Qu'est-ce qui vous a manqué donc dans cette élection présidentielle qui était, pour finir, très ouverte, puisque tous les scénarios imaginables, disons, ont été déjoués? Qu'est-ce qui vous a manqué, Jacques?
Eh bien, il m'a manqué ce qui a manqué à certaines élections. Si vous vous souvenez, parce que j'ai 79 ans bientôt, non de moi, excusez-moi, mais si vous venez des souvenez des élections de Mitterrand, il y a eu un vrai courant populaire. Il y a eu une demande populaire. Là, il n'y avait pas de demande. Il y avait ce que j'appelle un souci d'éliminer. De dire, non, celui-là, bon, allez, on s'en fout, etc. Et puis...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mouvement positif d'entraînement, ça a été qu'un mouvement négatif d'élimination.
Voilà, ça a été ça, mais derrière, si vous voulez, quand vous essayez de parler de programme, d'avenir, de solutions à apporter, Vous n'aviez pas de réponse, mais vous aviez, bon ben c'est la grande lessive et puis on verra.
Et vous avez voté vous-même, Jacques ?
Ah oui, 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 j'ai voté.
Mais par dépit donc à vous entendre, pas en tout cas par passion.
Non, j'ai voté de façon constructive, j'ai essayé, ça fait très longtemps que je vote et je savais que je voulais voter de façon positive.
Mmh. Et donc vous y êtes parvenu ou pas, Jacques ? Vous y êtes parvenu à voter de manière positive ?
Pardon ?
Vous y êtes parvenu à voter de manière positive, pour finir ?
Oui, oui, tout à fait.
Bon, voilà, une bonne nouvelle quand même, au terme de votre intervention, mais qui posait un certain nombre de questions. Jacques, merci. Sur, effectivement, le sentiment qu'ont un certain nombre d'électeurs, l'abstention en est peut-être une traduction, d'être restés sur leur faim. Oui, Roland Cayrol.
Oui, moi j'entends bien cette angoisse devant la façon dont ont fonctionné les modes de les scrutins. En même temps, Jacques nous dit très bien qu'il a voté chaque fois quand même. Ça veut dire que on arrive visiblement, quand on est un électeur qui aime bien la politique, à s'en tirer. Et moi je me dis, après tout, rappelez-vous, en septembre dernier, quand on parlait présidentielle, un sondage avait demandé aux Français ce qu'ils voulaient éviter dans cette présidentielle. Et 86%, ce qui n'est pas rien, avait dit qu'il voulait éviter un match Sarkozy-Hollande. S'il n'y avait pas eu les primaires, les débats autour des individus, ce que certains ont appelé le dégagisme, on aurait eu Sarkozy-Hollande. Eh bien, les Français, grâce à ce processus, ils ont su imposer leur volonté. C'est là que, quand on dit « il n'y a pas de volonté populaire », moi je trouve qu'elle s'est extrêmement manifestée. Elle a dit « on ne veut pas de Sarkozy, on ne veut pas de Hollande, et tant qu'à faire, on ne veut pas non plus des anciens premiers ministres, on a balancé Juppé, on a balancé Valls, on a fait place nette ». Alors, ça a fait du mal à tous ces gens-là, mais c'était quand même ce que voulait chaque fois une majorité de gens qui se sont précipités pour suivre les débats et pour y participer. Et même chose dans la présidentielle, quand Macron leur a dit ce que j'essayais de dire tout à l'heure, et gauche et droite et centre, arrêtons la guerre de religion, ça a marché. C'est quand même aussi une volonté positive de changer la façon dont fonctionne la Ve République et dont fonctionne la politique dans ce pays.
Mais c'est donc étonnant que coexistent la frustration et le dégagisme, c'est-à-dire l'usage de la volonté et malgré tout un sentiment que l'élection était insatisfaisante.
Mais parce qu'on a vécu pendant 50 ans selon un processus qui nous était imposé, qu'on aimait plus ou moins, qu'on aimait parfois beaucoup, parfois pas du tout, qui était gauche-droite obligé. Deux fois c'était arrivé à la gauche de ne pas être là dans un deuxième tour de présidentiel. Là, ça leur est arrivé à nouveau. C'était jamais arrivé à la droite. Ça leur est arrivé à l'un et à l'autre. Donc, on comprend que ça provoque un peu d'incompréhension, de frustration. Mais en même temps, c'est ce que voulait la majorité des gens et ils l'ont imposé. Donc, moi, j'ai plutôt vécu cette élection, cette séquence électorale primaire, présidentielle, législative, comme une mise au net du fonctionnement de la Ve République et de la politique française sous le contrôle du peuple.
Frédéric Savicky.
Ouais, je serais un peu moins optimiste, ou plutôt un peu plus réaliste.
C'est pour ça qu'on vous invite.
Voilà, un peu plus réaliste quand même, parce que réaliste au sens où les enquêtes réalisées par les instituts le montraient, le vote en faveur d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle et puis ensuite au second n'est pas un vote majoritairement d'adhésion à son programme. D'ailleurs, le programme lui-même était conçu comme assez large et assez flou. Et je pense que ce qu'exprime Jacques, c'est ça, c'est cette déception finalement qu'on n'a pas un élu, quelle que soit la ligne politique d'ailleurs qu'il ait défendue. S'il avait défendu une ligne qui avait sa ligne avait été soutenue véritablement et non pas, par crainte d'un deuxième tour entre Marine Le Pen et François Fillon.
C'est vrai qu'il vaut mieux une ligne très soutenue et qu'on abandonne une fois au pouvoir, ce qu'ont fait tous les prédécesseurs.
Que pas de ligne, ce qui permet de faire ce qu'on veut une fois qu'on est élu.
Oui, alors ça évidemment c'est une...
options.
On peut considérer effectivement qu'il y a plusieurs formes de cynisme et que on peut aussi considérer que l'histoire n'est pas simplement condamnée à se répéter elle-même et que les candidats qui annoncent clairement ce qu'ils disent et qui ensuite font ce qu'ils disent peuvent être éventuellement récompensés au bout du compte. Donc je pense que c'est ça la déception qui est là exprimée et qui se retrouve quand même sur les législatives, puisque on en parlait tout à l'heure, pas simplement au deuxième tour, mais au premier tour, il y a quand même un taux d'abstention considérable qui fait que les gens ne se retrouvent pas forcément dans cette offre-là. Et dernier point quand même qui mérite mérite également d'être souligné concernant disons, l'attitude générale d'Emmanuel Macron depuis qu'il gouverne. Je rebondis d'ailleurs sur ce que disait aussi Thibéry tout à l'heure, mon collègue, c'est que évidemment, il y a quand même un paradoxe à jouer l'antipolitique, la politique autrement, et finalement à rentrer complètement dans les habits de la Ve République. Et du coup, là, il y a une source, effectivement, de déception qui risque de venir, y compris chez ceux qui peuvent avoir soutenu le programme d'Emmanuel Macron. Mais la façon de gouverner, je ne suis pas sûr, effectivement, qu'elle corresponde véritablement là à ceux qui ont soutenu véritablement Emmanuel Macron et qui aspiraient à un certain renouvellement. Il y a un renouvellement des hommes. On va voir maintenant, effectivement, s'il y a un renouvellement des pratiques. Et là, pour le moment, il y a des pointillés avec des gros points d'interrogation.
Ce qui fait beaucoup. Pointillé, point d'interrogation. Voilà. Oui, ça veut dire que la question est massive. Hein.
Exactement.
Christophe, bonsoir.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question. Ça concerne les 577 députés. À titre personnel, je considère qu'il y en a beaucoup trop. On pourrait très bien faire le même travail avec 250 ou 300. A priori, c'est prévu, mais est-ce que les députés vont voter leur sabordage? Et même chose pour les sénateurs. Moi, j'ai un sénateur dans ma ville, il est sénateur maire, il a dû poser trois questions intelligentes depuis qu'il est sénateur.
Ça fait combien de temps?
Dans ma ville, il y a le... ça doit faire son deuxième mandat, je pense. Et dans ma ville, il y a 32 élus au conseil municipal, il y en a 16 qui bossent. Je lis les comptes rendus du conseil municipal, il y en a qui ne disent mais rien du tout, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Autant passer à 16, hein. C'est pas la peine de garder autant de monde.
Merci pour cette question. Restez en ligne, Karine Bécard.
C'est une question qui revient très régulièrement. 577 députés, c'est trop. Je me prononcerai pas sur ça. Ce qui va être intéressant à observer, c'est que là, on a des novices en politique, beaucoup, qui viennent donc des rangs de La République En Marche, qui sont très certainement de futurs députés très zélés, qui vont envie de faire très très bien les choses, qui vont envie de s'investir énormément. Et puis alors surtout, deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a plus de cumul des mandats. Et donc on a des gens qui vont être présents à l'Assemblée, mais très très présents à l'Assemblée, au point qu'il va falloir les occuper en fait tous ces ans. Ces gens. Non mais sérieusement, parce que jusqu'à maintenant, comment fonctionne l'Assemblée? C'est nous d'ailleurs, journalistes politiques, on y est essentiellement le mardi et le mercredi, parce qu'il se passe plein de trucs. À partir du jeudi midi, ils repartent en circonscription. Là, ils seront là, puis ils auront envie de faire des trucs, faire des rapports, avancer. Je vous dis, ce sera des novices extrêmement zélés, parce que pour le coup, là, ils y croient vraiment à la mission dans laquelle ils ont. Donc, ça va être très intéressant d'observer comment le pouvoir, mais je sais d'ailleurs qu'ils y réfléchissent déjà, va réussir à occuper en fait cette masse de gens. Et donc finalement, qu'ils soient un petit peu moins nombreux, ça va sans doute être une solution. Comme ça, s'il y a un peu plus de travail, voilà.
Ils seront moins nombreux à se le partager.
C'est ça.
Vincent Thibéry.
Oui, alors plusieurs choses à retenir. D'abord, il faut se méfier de l'idée qu'il y a un fort renouvellement. Alors certes, on a 75% de nouvelles têtes, ce qui est historique, hein. Même en 58, c'était moins. Mais il n'empêche que ces nouvelles têtes sont socialement très situées, sont pour certains des apprentis politiques depuis un petit moment, donc quelque part En Marche est un accélérateur de carrière. Et derrière, il faut se souvenir qu'on a quand même beaucoup de classes sociales supérieures, de diplômés, de cadres du privé, etc. Surtout, le vrai enjeu, à mon sens, c'est que parmi ces députés, ils n'ont pas finalement autant de pouvoir que ça, et notamment le pouvoir de contrôler l'exécutif. Quand on compare ce que peut faire un sénateur américain, un congressman américain, et ce qu'a à sa disposition un député français, on se rend compte qu'ils sont finalement très très faibles pour jouer justement ce rôle de contrôle. Ce d'autant plus que le Parlement, généralement, est du coup un vrai problème de légitimité, puisque sa légitimité, avec cette inversion du calendrier, débouche de la légitimité présidentielle. Donc du coup, on est quand même face à quelque chose de très très troublant, justement en termes d'équilibre des pouvoirs et de capacité à faire émerger des différences. Donc moi, je serais assez pour qu'on réduise le nombre de députés, mais surtout, la vraie réforme, ça serait penser à la proportionnelle, et deux, peut-être faire élire les députés en même temps que le président, pour que au moins chacune de ces instances ait sa propre légitimité à faire valoir. Vous voyez, quelque part, Trump est dans une situation plus compliquée que Emmanuel Macron, de ce point de vue-là.
Frédéric Savicky, puis Roland Cayrol.
Oui, je pense que la question de la réduction du nombre des députés est importante, mais qu'il ne faut pas l'isoler, enfin, ou des sénateurs, puisque ça fait partie du programme d'Emmanuel Macron. Donc, moi, je pense effectivement que c'est une bonne idée, à condition que, dans le même temps, les moyens d'action et les moyens, y compris matériels, des députés soient augmentés. Or, malheureusement, effectivement, la suspicion qui règne actuellement sur la classe politique fait qu'il est très difficile pour un pouvoir, quel qu'il soit, de proposer une diminution du nombre des députés, mais une augmentation très substantielle des moyens matériels. Ouais. Financiers pour les députés, non pas pour qu'ils aient un salaire supérieur à celui d'un chef d'entreprise, mais qu'ils puissent embaucher des collaborateurs. Vous savez qu'en Allemagne, par exemple, où il y a à peu près autant de parlementaires qu'en France, chaque député dispose de 10 personnes à son service, mais avec d'ailleurs un recrutement très contrôlé, beaucoup plus contrôlé qu'en France, mais qui leur offre une expertise. C'est le cas évidemment aux États-Unis où les parlementaires ont des cabinets qui équivalent à ceux de nos ministres. Donc là, il faut des moyens. Et évidemment, troisième, on pourrait dire, étape de la fusée, il faut changer un certain nombre de dispositions aussi sur le fonctionnement des relations de pouvoir entre le Parlement et notamment, par exemple, donner un pouvoir renforcé de contrôle sur les politiques publiques, sur les nominations également aux parlementaires. Il faut dire les choses très simplement. Si les parlementaires ont les moyens, ils sont moins corruptibles et ils sont plus libres de travailler, et dans une configuration où il n'y a plus de cumul des mandats, évidemment, si on ne veut pas que tous ces parlementaires élus finalement passent quand même du temps dans les circonscriptions parce qu'ils vont s'employer à se faire réélire, et comme ils n'ont pas de position locale, ils risquent effectivement de devoir surlabourer, si on peut dire, le terrain.
Oui, il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui qu'ils viennent pour un mandat. Hein,
peut-être,
même,
hein. Peut-être. Pour attendons, l'instant. C'est voilà. Ce qu'on dit au début, on verra ce qu'il en est. C'est possible pour tous ceux qui ont des niveaux de revenus assez élevés, qui risquent de découvrir finalement que les contraintes de la vie politique et les rémunérations qu'ils en tirent sont peut-être pas à la hauteur de leurs espérances, surtout si on leur donne peu de choses à faire. Donc ça, c'est pas à exclure. Après, on sait très bien, effectivement, que le goût du pouvoir vient, évidemment, en mangeant.
Roland Cayrol.
Oui, c'est la Révolution française qui nous a habitués à la tradition des assemblées nombreuses, avec cette idée qu'une assemblée, ça devait représenter l'ensemble du peuple, notamment par rapport au danger du pouvoir personnel. Et chaque fois, au fil de l'histoire, quand on s'est dit on pourrait peut-être réduire un peu, il y a toujours eu des gens pour dire attention, la tradition révolutionnaire nous enseigne que... C'est devenu de la blague, la tradition révolutionnaire, parce que quand on regarde, moi j'ai essayé de regarder dans les deux dernières assemblées, combien de parlementaires faisaient le travail de l'Assemblée nationale. En comptant assez large, vraiment même les gens qui avaient fait très peu de choses, j'ai compté à peu près 80 parlementaires sur 577. Donc n'exagérons pas, quoi. Et beaucoup de choses qu'on enseigne encore dans les cours de droit constitutionnel, ils sont pas en séance, mais ils sont en commission, sont devenus une blague aussi. Ils sont pas plus en commission qu'ils ne sont en séance plénière. Donc il y a un problème de quoi faire. D'abord, il faut les réduire. Alors c'est dans le programme de Macron. Moi, je l'incite très vivement à le faire le plus vite possible, parce que plus ils vont être là, plus ils peuvent se dire que la place est bonne, comme on dit vulgairement. Donc ça me paraît logique de réduire le nombre des députés et des sénateurs, et en effet, en profiter, pourquoi pas, pour leur donner plus de moyens de travail, plus d'efficacité possible dans leur travail.
Si la première idée est dans l'air du temps, réduire le nombre, les payer plus me semble pas être dans l'air du temps. Leur donner plus de moyens.
Oui, les payer plus, oui, parce que Macron a dit dans sa campagne qu'il allait fusionner l'indemnité parlementaire et l'indemnité de frais, que les fusionnant, il les rendrait fiscalement imposables, mais ils vont quand même gagner plus, les députés. Donc, tout ça est un peu à l'ordre du jour. Thibéry nous a dit des pistes qui sont intéressantes pour faire travailler le Parlement plus, par exemple, contrôler mieux l'action de l'exécutif. Mmh. C'est une des fonctions théoriquement importantes du Parlement. Elle est extrêmement peu remplie. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, quand des députés sont allés à Bercy pour exiger d'avoir des documents budgétaires, et que ça a sidéré Bercy, que des parlementaires osent poser des questions pareilles. Il y a des moyens, aujourd'hui, qui sont inscrits dans leur pouvoir de contrôler beaucoup mieux l'activité gouvernementale qu'ils ne le font. Moi, si beaucoup de gens d'En Marche n'ont rien à faire, je leur suggérerais volontiers de faire ce boulot. Et puis, il y a aussi, probablement, là, Thibéry l'a dit aussi, la proportionnelle. Moi, je crois que la dose de proportionnelle à laquelle dont nous a aussi parlé Macron, comme tous les candidats de la dernière élection, je crois qu'une dose, c'est plus grave encore, c'est un remède plus grave que le mal. Ça illustre à quel point c'est injuste, le mode de désignation de l'Assemblée. Moi, je crois qu'on garde le scrutin majoritaire, ou on passe carrément à une cinquième bis avec une représentation intégralement proportionnelle.
Sur la proportionnelle, je salue Cyril. Bienvenue sur France Inter.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, Cyril.
Alors, j'ai été très intéressé par ce qui a été dit depuis quelques minutes. Diminuer, augmenter le nombre de députés. En fait, ce qui est toujours fascinant, c'est qu'on s'amuse à bricoler la machine, mais on ne se demande jamais si ça respecte l'intégrité de la machine. Alors, je m'explique. Les députés sont censés, si vous me dites si je me trompe, hein, mais c'est ce que j'ai compris, représenter la nation française dans son entièreté. Ils sont pas là pour représenter une circonscription à une fraction de la population, je veux dire au niveau local. Et ça se retrouvait très très bien, ce problème, dans les prospectus des députés, où il y avait énormément de choses locales. C'est pas ce qu'on attend d'un député. Un député, il doit représenter la nation. Alors à partir de ce moment-là, une fois qu'on a répondu à cette question, eh bien, la seule solution, c'est la proportionnelle intégrale. Parce que si vous diminuez le nombre de députés, comme je l'entends depuis quelques instants, soi-disant que ça sera la panacée. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous regardez le scrutin majoritaire, il y aura une assemblée qui sera encore moins représentative, parce que ça met de côté des gens qui votent et qui n'auront jamais de députés qui représenteront leurs idées politiques. Voilà, donc j'aimerais quand même, une bonne fois pour toutes, qu'on remette les choses, qu'on recommence sur les débats, sur les bases. Le député représente la nation. S'il représente la nation, c'est la proportionnelle. Après, les conséquences, ça sera autre chose. Ça fera pas plaisir à beaucoup de partis politiques, ça va secouer très certainement le monde politique, mais c'est à mon avis une des explications de ce taux d'abstention absolument phénoménal.
Merci Cyril. Restez en ligne, Cyril. On fait réagir ici en studio Roland Cayrol. Proportionnelle intégrale.
Ben moi, je suis devenu tout à fait favorable à cette proportionnelle intégrale.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé qu'il arrive à un moment où il y en a marre de pousser une République dans ses retranchements et où elle devient la caricature d'elle-même. Moi, je me souviens, jadis, on nous expliquait que l'avantage d'un système majoritaire à deux tours, c'est que, en effet, il était déformant, mais qu'il donnait une majorité plus sûre à la majorité en tête, enfin disons, et que du coup on avait des régimes stables. On a vécu les 5 dernières années sans régime stable, avec des frondeurs qui empêchaient une majorité d'exister, après que des partis appartenant à la majorité soient déjà partis. Et donc on avait un système majoritaire qui s'est révélé instable. Et nous avons autour de nous, sauf en Angleterre, des régimes parlementaires proportionnels, avec parfois un minimum à 5% comme en Allemagne, qui sont parfaitement stables. Donc cette histoire a été, au bout d'un moment, démentie par les faits. Nous pouvons avoir un système qui représente les différents courants du pays, qui soit juste dans la représentation, et dans laquelle tous nos voisins, et notamment nos amis allemands, nous le montrent, il est tout à fait possible de gouverner.
Frédéric Savicky.
Pendant longtemps, en fait, l'attachement au scrutin majoritaire à deux tours, encore qu'il y a eu une exception entre 86 et 88 et qui a permis d'ailleurs parfaitement aux institutions de fonctionner.
Avec une majorité.
Voilà, était fondée sur l'image négative de la 4e République. Et c'est là-dessus que le général de Gaulle avait fondé la nécessité de changer de mode de scrutin, en oubliant au passage que c'était aussi un moyen de se débarrasser du risque des communistes qui, évidemment, à l'époque, étaient beaucoup plus puissants politiquement. Et en fait, on a complètement oublié que la 3e République fonctionnait sur un mode de scrutin majoritaire, était tout aussi instable. C'est-à-dire qu'on a, dans l'esprit de beaucoup de politiques, et y compris d'ailleurs, ça a été transmis dans les cours de sciences politiques, d'histoire politique, il y avait cette idée que proportionnel égale instabilité. Or, on voit aujourd'hui qu'il y a des systèmes majoritaires, et le nôtre le montre aujourd'hui, qui ne pousse plus à la bipartition, qui peut même aboutir à une espèce de d'hyper majorité complètement disproportionnée par rapport à la représentation. Et à l'inverse, des systèmes proportionnels, Roland Cayrol a tout à fait raison, l'exemple allemand me semble tout à fait emblématique, mais il n'est pas le seul, qui fonctionne parfaitement de façon équilibrée. Et même s'il y a des coalitions, de toute façon, les coalitions, elles existent même en France, hein, les accords entre traditionnellement le PS et le PC, le RPR, l'UDI, on voit bien aujourd'hui que la majorité est composite. Donc je pense que en France, on arrive à un tel niveau de surprésidentialisation que les pouvoirs sont trop déséquilibrés, que les citoyens rejettent, ne se sentent pas représentés et qu'il faut effectivement, quitte à ce qu'il y ait effectivement 80 députés ou 100 députés du Front National, prenons-en le risque, il faut passer à ça. Juste par rapport à votre auditeur, si on s'était focalisé sur la réduction du nombre de parlementaires, c'est que c'était tout simplement la question qui était posée par l'auditeur et que c'est plus facile de réformer paradoxalement le mode de scrutin parce que c'est une loi simple, alors que pour le nombre de parlementaires, il faut une réforme de la Constitution. Et là, obstacle est très fort, puisque ce sont les parlementaires qui doivent d'abord valider cette réforme constitutionnelle avant éventuellement que le président propose un référendum, ce qui évidemment fait que paradoxalement c'est plus difficile, mais il faut effectivement faire les deux.
Vincent Tibéri à Bordeaux.
Oui, je pense qu'on a aussi un vrai problème qui est qu'on est quand même face à une constitution qui est centrée sur le président avec des pouvoirs qui sont quasiment sans commune mesure, hein, en Europe comme aux États-Unis. Et en face, on a une société de plus en plus complexe. C'est-à-dire que cette Ve République, elle pouvait valoir à un moment où l'État décidait de pouvoir tout faire, à un moment où on était dans la verticalité du pouvoir, à un moment où on était dans la technostructure. Aujourd'hui, ça ne peut plus être ça. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui sont capables de contester des décisions étatiques, des associations qui sont capables de se monter très 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 vite, qui en plus sont de plus en plus efficaces dans la contestation. Donc on a un mouvement social qui est de plus en plus protéiforme, capable de s'opposer à tel point que Rosan Vallon parle de contre-démocratie. Et en face, on a quelque part un pouvoir, pas absolu, mais un pouvoir extrêmement déséquilibré. Et là, il y a un vrai enjeu, ce d'autant plus, encore une fois, que Emmanuel Macron n'a été élu que par 24% des électeurs au premier tour. N'a été choisi que par 24% d'entre eux. Donc quelque part, il faut réussir à retrouver une manière de créer de l'équilibre pour faire en sorte que le pouvoir en France ne soit pas le pouvoir d'un homme, d'un parti ou d'un camp, mais aille un petit peu plus loin. Et ça, c'est un vrai changement de culture politique. Et possiblement, c'est pour ça que ça marche probablement en Allemagne un peu plus qu'en France. Cette recherche de consensus est aussi une manière d'associer les citoyens.
Karine Bécard.
Moi, j'ai un petit doute sur la proportionnelle, parce que j'ai le sentiment qu'elle ne correspond pas au rythme politique dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va vite. Aujourd'hui, les gens veulent des résultats tout de suite. Une des raisons pour lesquelles François Hollande, vraiment, sa courbe de popularité s'est effondrée, c'est parce que, voilà, il s'était engagé à trouver très vite des solutions sur le chômage. Il les a pas trouvées, donc les gens, pouf, n'en ont plus voulu. Donc, ce rythme ultra immédiat dans lequel on est aujourd'hui, si on part dans, j'ai envie de dire, le délire de la proportionnelle, faire passer une réforme, ça va être compliqué, ça va être long.
Parlez-vous de délire de la proportionnelle? Vous êtes quand même très prescriptive, là, c'est moins compliqué, très normative.
Non, mais, Karine Bécard. Parce que j'ai le sentiment que
répondez
voilà.
Répondez au professeur Savetti.
Qu'est-ce que vous avez dit? Les Allemands sont plus lents, les Allemands sont plus lents que les Français.
Karine Bécard, à la parole.
Je conviens que délire, c'était excessif, mais ce que je veux dire par là, vraiment, c'est, voilà, on veut aller vite, on veut des résultats, et passer par la proportionnelle, ça veut dire trouver des accords, ça veut dire discuter, ça veut dire trouver un compromis. Alors un, c'est pas notre culture, et deux, ça prend du temps.
Rien.
Roland Kayrol, il nous reste très peu de temps.
Rien ne prouve que les parlements européens, suédois, belges, allemands.
Ils ont cette culture-là, nous pas. Donc nous, au début, on va perdre du temps.
On va la reprendre. Mm-hmm. Pourquoi pas? Je veux dire, on n'est pas marqué d'une espèce de sceau d'infamie française qui nous condamnerait.
Le succès de Macron, tant que ça, le succès des autres change. Le succès de Macron montre justement que la culture change, puisque les gens veulent plus de rapprochement et plus de dialogue entre la droite, la gauche et le centre.
On s'arrête là. Voilà, je vais y arriver. Pour l'instant, je veux tellement pas rendre l'antenne à l'heure que en retard, voilà, que je vais finir par perdre du temps. Merci à tous. Le téléphone sonne. Continue après le journal.
France Inter, le 18-20.
Et la suite de cette édition spéciale du Téléphone Sonne consacrée aux résultats du second tour des législatives. Les différentes branches de la science politique vont avoir besoin de temps pour analyser tous les éléments inédits qui ont émergé dans le paysage politique français, que ce soit la disparition, pour commencer, de sa structure historique, en tout cas à l'instant T, l'affaiblissement de certains partis, l'émergence de nouveaux mouvements, le profil, l'action des nouveaux députés, le poids, la nature de l'abstention. C'est complexe, c'est passionnant. Intervenez, amis auditeurs, jusqu'à 20h dans ce Téléphone Sonne.
Nicolas Demorand, le Téléphone Sonne.
Et j'accueille Marc, qui nous appelle donc au standard d'Inter. Bonjour, bienvenue Marc.
Bonsoir Nicolas Demorand, bonsoir à vos invités. Je voulais saluer le renouvellement de l'Assemblée nationale, mais je me permettrai de souhaiter que les nouvelles et nouveaux députés qui prétendent accompagner le président dans sa volonté de moderniser la France et de réformer le code du travail et que sais-je, commence par moderniser le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et je cite quelques exemples, les huissiers avec leurs chaînes, les dorures de l'hôtel de la C, la prime de charbon des fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Et donc, qu'il modernise l'Assemblée nationale, mais aussi réforme plus profondément le statut de député que ne le propose le projet Bayrou. En particulier, je voulais poser à vos invités la question suivante. Le projet Bayrou propose de limiter les activités de conseil des députés. Est-ce qu'il ne faut pas les interdire purement et simplement ? Et ceci pour deux raisons. D'une part, bon, ces gens se sont présentés à nos suffrages pour nous représenter. J'estime qu'ils doivent le faire à 100%. Et deuxièmement, les activités de conseil qui sont essentiellement du conseil aux entreprises, ne sont-ils pas la porte ouverte au lobbying ou au conflit d'intérêts, sinon au délit d'initié?
Merci Marc pour cet ensemble de questions. Pour vous répondre et dialoguer jusqu'à 20h, nous retrouvons Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Roland Kayrol, directeur de recherche associé au CEVIPOF. Je salue monsieur le directeur général de Terra Nova, Thierry Pêche, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être au micro d'Inter. Et bonsoir Étienne Ollion.
Bonsoir.
Sociologue au CNRS, co-auteur de Métier député, enquête sur la professionnalisation de la politique en France. C'est aux éditions Raison d'agir, publié en avril 2017. La parole est à vous pour répondre au premier aspect de la question de Marc.
Alors évidemment, la question de la modernisation, beaucoup de personnes se la posent, hein, parce que quand on est à l'Assemblée, on est frappé par les dorures, par le faste, par certains aspects, et puis tout un tas de codes qui font très 19e siècle. Il faut savoir, par exemple, que le règlement de l'Assemblée nationale est progressivement accumulé dans des boîtes en bois qu'on range dans le bureau, en fait, de l'administration, et donc il y a une jurisprudence qui s'étale depuis Eugène Pierre, qui était le grand questeur de l'Assemblée nationale, le grand secrétaire. Donc, c'est certain que c'est une institution qui apparaît vraiment hors du temps. La question de la modernisation se pose assez régulièrement. Elle est souvent d'ailleurs abordée, hein, peut-être de manière moins évidente qu'on peut le enfin, on le voit pas forcément, mais ça arrive. Se poser la question de l'Assemblée nationale et de ces petites choses qui sont à mon avis, plutôt du symbole que d'autre chose, ne doit pas faire l'économie, à mon avis, de se poser la question plus généralement de la place de l'Assemblée dans le régime. C'est-à-dire que si on se pose la question de ce qu'il faut faire à l'Assemblée, il faut aussi se poser la question du rôle des députés. Vous évoquiez précédemment la question du nombre, leurs attributions. Moi, je pense qu'on peut pas parler du nombre des députés sans parler de leurs attributions et du pouvoir de contrôle qu'ils pourraient avoir. Un seul exemple. La semaine dernière, on a eu le président l'ancien directeur du FBI qui est venu aux États-Unis témoigner devant le Sénat. Est-ce qu'on pourrait envisager la même chose en France et un même contrôle et un même contre-pouvoir qui serait exercé ? Donc je pense que tous ces éléments sont évidemment centraux et à prendre en compte, mais plus généralement, quitte à être ambitieux, il faut se poser la question de la place de l'Assemblée.
Thierry Pêche.
Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que moderniser l'Assemblée, c'est pas simplement refaire les peintures, enlever des dorures, ce qui peut avoir du sens, parce qu'après tout, cette espèce de grand apparat symbolique paraît un peu d'un autre âge. Mais c'est aussi repenser.
C'est plus sobre en Allemagne.
C'est souvent plus sobre à l'étranger, en effet.
Le Parlement européen.
Alors, c'est plus sobre et pas tellement plus neuf en Grande-Bretagne. Hein. C'est pas forcément la sobriété n'est pas un signe de modernité nécessairement. Mais bon, mais moderniser le rôle de l'Assemblée, ça, par contre, c'est très utile. Et je crois qu'effectivement, l'Assemblée nationale française n'exerce pas assez son rôle de contrôle. Il devrait y avoir des enquêtes parlementaires beaucoup plus régulières, avec des pouvoirs plus puissants sur toute une série de sujets. Par exemple, que n'a-t-on fait une enquête parlementaire, une commission d'enquête parlementaire sur l'intervention en Libye ? Il y en a eu une au Royaume-Uni. Après tout, on est en droit de s'interroger sur le sens de tout ça. Sur la remarque de Marc, votre auditeur, concernant les émoluments des députés pour du conseil privé, moi je suis très favorable, comme lui, à l'interdiction pure et simple de ce type de revenus. Quitte à ce qu'on paye un peu plus les députés ou qu'on leur donne plus de moyens pour faire leur travail. Mais je pense qu'en effet, c'est un... D'ailleurs, on l'avait préconisé dans un rapport à Terra Nova récemment sur les conflits d'intérêts, parce qu'effectivement, c'est une porte ouverte aux conflits d'intérêts. Ça ne veut pas dire que les députés sont en conflit d'intérêts, mais on doit pouvoir avoir l'assurance que ça n'est pas possible. Et comme ça, au moins, il n'y aura pas de rumeurs ou de soupçons.
Frédéric Savicky, puis Roland Kayrol.
Oui, je voudrais rebondir aussi sur cette question des conflits d'intérêts. C'est une question qui est compliquée, parce que la notion de conflit d'intérêts couvre des choses très différentes. Là, ce qu'évoquait Marc, c'est je suis député, puis je vais développer une activité de conseil pendant mon activité parlementaire, avec évidemment là le soupçon direct d'être utilisé par un groupe d'intérêt quelconque, un lobby, comme porte-parole, porte-voix de ses intérêts au sein de l'Assemblée. Et puis il y a un deuxième type de conflit d'intérêts beaucoup plus vicieux, si j'ose dire, c'est le conflit d'intérêts où vous êtes issu d'un milieu professionnel particulier et en tant que parlementaire, vous allez occuper des fonctions, être amené à rapporter sur un texte de loi, proposer des amendements qui correspondent au fond au groupe dont vous êtes vous-même issu. C'est le cas d'un médecin chirurgien spécialiste qui va rapporter sur la législation qui concerne les dépenses maladie, etc. Et là, effectivement, on est au point zéro. C'est-à-dire que il y a une tradition, on pourrait dire, en France, on en parlait tout à l'heure, qui vient de la Révolution française, qui fait que quand vous êtes parlementaire, vous êtes censé représenter la nation et tout ce que vous êtes par ailleurs disparaît. On fait comme si c'était une page blanche. Or, on sait très bien, mais ça concerne aussi, par exemple, le cumul des positions locales. Pendant des années, on ne voyait pas de problème que quelqu'un qui était maire d'une grande ville, au Sénat, par exemple, rapporte sur la législation qui s'appliquait aux grandes villes. Bon. Donc là, il y a une réflexion que la loi, le projet de loi de François Bayrou n'aborde pas véritablement, à mon avis, comme il faudrait, mais sur laquelle il faudrait pas simplement légiférer en urgence, hein, comme la loi, il y a beaucoup d'aspects dans la loi qui est prévu, qui est une réaction à ce qu'on a eu comme révélation au cours de la campagne électorale autour du Cafillon. Je pense qu'il faudrait se donner du temps et effectivement mettre à plat et penser cette question des incompatibilités. Hein, est-ce que en tant que élu issu de telle profession, on est légitime à siéger dans tel type de commission plutôt que dans une autre? La question mérite d'être posée. Elle pourrait être posée aussi, d'ailleurs, elle n'a pas été beaucoup, concernant les ministres. On l'avait évoqué la dernière fois à une émission précédente. Je pense que là, il y a un énorme retard de la France sur ces questions.
Roland Cayrol.
Oui, moi je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit, donc ça va être plus rapide pour le débat.
Si vous voulez, je donne la parole à quelqu'un d'autre.
Ajouter deux petits points. Le premier, pour insister sur la modernisation de la fonction de contrôle. Pour ceux des auditeurs qui sont là depuis longtemps, on en a parlé dans l'heure précédente. Mais je pense extrêmement important, en effet, que on ne pourra pas améliorer beaucoup le travail du député dans l'élaboration de la loi. Dans tous les parlements, même dans les régimes extrêmement parlementaires, c'est en fait les gouvernements qui sont à l'origine des lois, parce que les administrations ont plus de moyens de faire appel à des experts. Donc on peut améliorer les choses pour les députés, améliorer notamment la mutualisation d'experts pour l'ensemble d'un groupe politique. Tout ça n'empêchera pas que c'est pas là que résidera le vrai pouvoir du parlementaire. En revanche, sur le contrôle de l'activité gouvernementale, presque tout est à faire. Vraiment, nous sommes extrêmement en retard, et par rapport à ce qui devrait se faire, et par rapport à ce que font l'ensemble des parlements des grands pays. Donc là, je crois que pas seulement la loi, pas seulement le règlement, mais il y a des tas de choses qui sont faisables parce qu'elles ne sont pas interdites, et que les députés ne font pas, n'ont pas l'idée de faire. Je crois qu'il faut appeler, notamment le groupe parlementaire majoritaire, à réfléchir à une moyen qu'il aurait d'entrer plus vraiment dans la politique en contrôlant ce que fait le gouvernement. Et la deuxième chose, c'est cette histoire de conseil privé. Je crois que l'une des choses sur lesquelles, pour le moment, le projet de loi Bayrou est le plus timide, c'est sur le conflit d'intérêts, qui est la chose la plus grave de nos démocraties. C'est vraiment le risque que des assemblées représentatives soient un peu trop le siège de représentation de lobbies, de groupes de pression privés divers. Alors, je sais bien, il y a eu cette interdiction déjà de conseil lorsque on prenait ces fonctions de conseil pendant son mandat. Maintenant, on nous dit qu'on va contrôler les fonctions de conseil lorsque ce sont des entreprises qui bénéficient de fonds publics. Je crois que c'est très insuffisant. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne bénéficient pas de fonds publics et qui sont capables d'avoir une action de lobby extrêmement efficace au sein des assemblées. Le problème, c'est que si on dit fonction de conseil tout court et qu'on interdit, le Conseil constitutionnel n'est pas d'accord et a déjà jugé que ça n'était pas possible. Donc il va falloir que ceux qui ont envie d'aller plus loin là-dessus réfléchissent à une position juridique qui soit acceptable par le Conseil. Conseil constitutionnel.
Un mot Thierry Pêche, puis Pierre au standard.
Cette histoire du conflit d'intérêts est un grand sujet, parce que c'est un sujet pour la société, pas que pour la classe politique. Si on veut pouvoir poursuivre le conflit d'intérêts dans la haute fonction publique, dans les grandes entreprises, où ça existe aussi, et parfois dans des proportions financièrement beaucoup plus grandes, il faut que la classe politique soit exemplaire. Donc c'est ça qui est compliqué. Et effectivement, Frédéric Savicky a raison, on ne va pas improviser des règlements parce que ce sont des choses complexes et on n'évacuera jamais complètement le conflit d'intérêts. On ne peut pas vivre dans un monde parfait. Eh bien, il faut se donner 2-3 années de réflexion pour produire une proposition qui sera à la fois pragmatique et exemplaire.
Mon cher Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Voilà, pour poser ma question, tout d'abord un tout petit retour en arrière. Au deuxième tour des présidentielles, il y a eu 25% d'abstention, ce qui ne s'était pas vu depuis 1969, je crois. Et il y a eu un chiffre historique, à peu près 10% de blancs ou nuls, ce qui ne s'était jamais produit sur la Ve République. On a eu au premier tour des législatives 51% d'abstention, ce qui est aussi historique, et 57% au deuxième tour. Enfin, pour moi, les choses sont claires, même si Emmanuel Macron a été élu, même s'il a une majorité absolue, je ne crois pas qu'il y ait une adhésion de la population française au programme donc de Macron. Pour moi, Emmanuel Macron a été élu par défaut, je le dis clairement ici, et d'ailleurs, je suis un petit peu surpris tout à l'heure, c'est M. Cayrol qui a fait un petit historique de ce qui s'est passé avec le fait qu'il n'y a pas eu Sarkozy, bon, etc., etc. Et, bon, et qu'on voulait se débarrasser de Premier ministre, il a simplement oublié de dire, enfin, selon moi, les deux faits majeurs de l'élection présidentielle, c'est quand même donc l'affaire Fillon et la trahison qu'a subie donc Benoît Hamon. C'est quand même deux faits majeurs qui ont quand même fait que Emmanuel Macron a été élu par défaut. D'où ce taux d'abstention gigantesque. Et par rapport à cela, moi je pose la question. Alors voilà, on a une droite qui n'a plus donc un vrai repère idéologique et qui est tentée par soit donc s'opposer, soit ils vont voter pour Macron. On a un PS qui est en miettes. Et donc, face à ce taux d'abstention, face à un projet qui pour moi n'a pas une vraie une adhésion véritable, est-ce que finalement les deux partis extrêmes, qui certes n'ont que 25 députés, c'est-à-dire moins que le PS, mais ce sont quand même donc deux partis qui ne feront aucun cadeau.
Vous parlez de la France insoumise et du Front national, j'imagine, Pierre.
Être dans une opposition dure, je ne crois pas qu'ils voteront une loi Macron. Et donc, est-ce que finalement, alors qu'ils ont certains ténors, hein, et donc de très bons orateurs, est-ce qu'ils ne vont pas plus se faire entendre? Est-ce qu'ils ne vont pas mener la vie dure au gouvernement, tout en étant que 25, même s'ils ne sont pas d'accord tous les deux, on est bien d'accord?
Les Insoumis, donc, et le Front National, Pierre, si je vous ai bien compris, je vous remercie évidemment pour cette question. On va faire circuler la parole ici, Étienne Lyon. Vous vouliez dire un mot?
Oui, peut-être. Il est certain que, à l'Assemblée, on fait pas beaucoup de lois. Ça vient d'être rappelé. Mais ce qu'on fait beaucoup, c'est de la politique. À l'Assemblée, c'est une caisse de résonance très forte pour faire de la politique au niveau national. Les médias sont très présents. Les députés ont beaucoup de moyens. Et donc, il est certain que, moi, je ne dirais pas qu'ils vont mener la vie dure au gouvernement, parce que je pense qu'ils n'en auront pas les moyens. Certains n'auront pas de groupe, d'autres auront des moyens assez limités du fait de la taille de leur groupe. Par contre, il est certain qu'ils pourront utiliser toutes les ressources qui sont présentes à l'Assemblée et qui vont permettre de se servir de leur position de député comme d'un porte-voix très puissant.
Sur la France insoumise, le Front national, qui veut dire un mot, leur rôle possible à l'Assemblée nationale. Frédéric Savicky.
Ce qui est surtout frappant concernant ces deux groupes, c'est que leurs deux leaders, assez incontestables et incontestés en interne, Marine Le Pen et, bon, alors même si des contestations existent, mais enfin, le fait qu'elle ait été élue avec 4 députés du Pas-de-Calais et du Nord-Pas-de-Calais, ça fait quand même un vrai appui. Et Jean-Luc Mélenchon de l'autre risque effectivement d'être très légitime, puisqu'ils vont sans cesse effectivement exprimer la parole à travers eux de tous les électeurs qui ont voté pour eux à l'élection présidentielle. Et en face, au Parti Socialiste, par exemple, pour le moment, il n'y a pas de leader, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, il n'y a même pas de leadership. On risque d'avoir même un groupe assez isolé. Pour le Modem, qui est dans la majorité, son leader est le seul qui est un peu de surface. Il est au gouvernement. Les Républicains, pour le moment, sont dans une situation très compliquée pour définir leur ligne, mais aussi pour choisir leur chef. Et donc, Je ne sais pas si ça durera tout le quinquennat, probablement pas, mais en tout cas, dans les premiers mois, on risque effectivement, sur le mode de la caisse de résonance, d'entendre surtout Mélenchon d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. Dernier élément quand même très important qu'il faut noter concernant, au fond, qu'est-ce que peut l'opposition dans un Parlement comme celui-là ? Il y a une vraie difficulté pour le moment, c'est que vous savez que la Constitution prévoit que l'interpellation du Conseil constitutionnel ne peut être le fait que par 60 parlementaires. Alors, il y a bien les sénateurs, il n'y a pas que les députés, mais c'est vrai qu'à terme, on verra ce qui se passe après les sénatoriales, la question va se poser, est-ce qu'il peut y avoir des recours, entre guillemets, de gauche, déposés par des députés ? Est-ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord ? Est-ce qu'ils sont assez nombreux pour être 60 pour éventuellement, par exemple, déposer un recours contre la loi, j'allais dire sécurité, de ces sécurités très particulièrement, on pourrait dire, problématiques qui est en train d'être élaborée ? Donc là, il y a aussi une vraie question sur qu'est-ce que peuvent et qu'est-ce que pourront vraiment faire ces parlementaires.
Thierry Pêche, Roland Kayrol.
Oui, il y avait déjà des formations qui n'avaient pas le pouvoir de proposer une motion de censure dans la précédente législature. On n'y a pas vu une entrave à la démocratie, que je sache. Donc il est normal qu'au terme des élections, il y ait une majorité. Elle n'est pas outrecuidante, 320 sièges. Bon, voilà, 308 sièges, pardon, ça fait une vingtaine de sièges majorité absolue. Bon, voilà, on ne va pas faire des gammes là-dessus toute la soirée. Par contre, je pense qu'effectivement, les extrêmes vont utiliser le Parlement comme caisse de résonance. Pierre a raison. Néanmoins, je veux attirer son attention sur un point, c'est que pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, qui lui va avoir un groupe parlementaire, c'est sûr, ce qui n'est pas le cas du Front National, en tout cas pas pour le moment, il n'a pas fait le choix du légitimisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Hier soir, il avait des accents quasi pré-insurrectionnel, en expliquant que ce gouvernement n'avait pas de légitimité.
Majorité boursouflée.
Il a inventé une espèce de loi du quorum implicite, c'est-à-dire que quand on a ce niveau de majorité, fut-elle absolue, eh bien on ne peut pas réformer le droit du travail, parce que ça supposerait quoi ? Alors 80% de majorité, on ne comprend pas bien. Et il a clairement appelé à la rue. Il a dit, voilà, moi je serai le leader de la rue. Nous ne céderons pas un mètre de droit social sans lutte, a-t-il dit, je crois, texto. Donc, c'est pas tellement le Parlement, pour lui, qui s'annonce comme la caisse de résonance idéale. C'est la rue. On verra si ça marche, c'est un autre pari.
Roland Kayrol.
Oui, c'est amusant d'entendre contester la légitimité de l'élection
des majorités. Ça revient très souvent au standard de France Inter.
Alors je vais quand même terminer ma phrase.
Non, mais j'y ai ajouté cette petite précision.
Et moi j'ajoute la fin de ma phrase. C'est assez amusant de mettre en cause les légitimités de ceux qui sont élus en majorité et de réclamer une légitimité pour ceux qui sont minoritaires. Je n'arrive pas très bien à comprendre le raisonnement de notre sympathique auditeur. Quant à la possibilité qu'auront les extrêmes, oui, le Parlement, ça sert aussi à parlementer. Comme l'a dit Oyon, c'est un endroit où on fait de la politique. Donc des gens qui sont élus peuvent y faire de la politique, ce qui veut dire qu'ils peuvent aller à la tribune de temps en temps. Encore qu'il y a des limitations de temps de parole et que si Marine Le Pen n'a pas de groupe parlementaire, c'est très difficile de pouvoir aller accéder à la tribune si on n'est pas l'émanation d'un groupe parlementaire. C'est pour ça qu'elle va chercher désespérément à constituer un autour d'elle. Mais il y a aussi les médias qui sont là, les médias d'information continue, la salle des quatre colonnes. Bref, c'est un endroit où on peut se faire entendre. Mais encore une fois, moi aussi, comme Thierry Pêche, je trouvais frappant que dans son discours d'hier soir, Mélenchon semble d'une certaine façon ne pas valoriser beaucoup le Parlement et se pose plutôt comme, à ma connaissance, aucun leader politique de la gauche ne l'a fait depuis le Parti communiste de l'entre-deux-guerres, a dit qu'il serait celui qui donnerait le signal à la population du moment d'entrer en résistance. C'est-à-dire que c'est une façon de parler au mouvement social que nous n'avions plus dans aucun courant de la gauche française qui respectait le mouvement social pour tel ou le mouvement syndical et qui éventuellement apportait son soutien et son amplification. L'idée que le signal de la résistance parte d'un dirigeant politique est une nouveauté.
Mais c'est pour ça que je me permettais d'insister, Roland Kayrol, quand on suit le raisonnement, c'est ce président n'est pas légitime, cette majorité a été élue avec un taux d'abstention absolument considérable, donc elle n'est pas plus légitime, et nous ferons, nous, le vrai travail d'opposition qui ne peut pas se jouer à l'Assemblée. C'est en tout cas comme ça que j'ai compris les propos de Jean-Luc Mélenchon, mais qui se jouera de fait dans la rue, avec ce qu'il a appelé aussi l'insurrection de l'abstention. C'est-à-dire, ce n'est pas une abstention négative, c'est en fait une politique, c'est une réserve politique, l'abstention.
Si ça n'est que ça, c'est ce qu'ont toujours fait les minorités sorties des élections, toujours accompagnées par les médias qui les amplifiaient, en disant que dès l'instant qu'on avait cet étouffement de la vie démocratique, ce serait la rue qui apparaîtrait comme l'acteur principal. Et ça ne s'est en général pas passé. Donc on verra bien.
Ma mémoire me trompe peut-être, mais le procès en illégitimité intervient tous les 5 ans ?
Intervient très souvent, oui.
Mais tous les 5 ans ?
À peu près.
Il y a eu un procès en illégitimité pour les socialistes lors de la précédente législature ?
Mais très évidemment, ceux qui sont battus...
Je parle de la France, là.
Alors écoutez, je regrette de ne pas avoir porté une documentation là-dessus, je ne savais pas qu'on en parlerait, mais nous avons chaque fois la mise en cause du fonctionnement de la Ve République, le fait que le mode de scrutin est un scrutin injuste qui empêche le fonctionnement d'autres majorités que celles qui dominent, et le fait que, alors ça se fait de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe, il y a l'augmentation de l'abstention, laquelle est étroitement liée au calendrier électoral. Depuis que nous avons, en l'an 2000, décidé qu'il y avait l'élection maire, la présidentielle avant, on est passé successivement de 30 à 35, puis 40, puis 45, puis 50% au premier tour, et maintenant 57% au deuxième tour.
Mais là, il y a quelque chose de nouveau, Roland Cayrol, si vous me permettez d'insister.
Tout est toujours nouveau dans l'histoire.
Non, mais si vous me permettez d'insister, il y a là un procès très clair qui est fait en illégitimité de l'élection. L'élection présidentielle n'a pas de chance.
Je suis très content que pour la première fois vous l'entendiez.
Mais non,
ce procès n'est pas nouveau.
C'est pas la première fois. Je ne l'entends pas pour la première fois. C'est la première fois que j'ai l'impression de l'entendre, si j'ose dire. Thierry Pech.
Il y a quelque chose
j'ai pas souvenir de ça pour Nicolas Sarkozy ou François Hollande, c'est tout ce que je veux dire.
Deux points. D'abord, ceux qui mettent en cause la légitimité du résultat de l'élection disent souvent, oui finalement, 15% des inscrits vont gouverner la France. Je voudrais juste rappeler deux, trois chiffres. Avec 43% des suffrages exprimés, en effet, La République En Marche, hier, avait 16,5% des inscrits. Mais avec 4,86% des suffrages exprimés, la France insoumise avait 1,8% des inscrits. Donc, il faut... L'abstention, elle fait du mal à tout le monde, pas qu'aux vainqueurs. Elle fait du mal encore plus aux vaincus. Que n'ont-ils voté pour eux, les Français, si vraiment la légitimité se trouvait ailleurs ? Le deuxième point, c'est que la rhétorique de Mélenchon, elle est nouvelle et pas nouvelle. Parce que Roland Cayrol a raison sur un point, le procès en illégitimité, il est fait tous les 5 ans, mais pas par ce morceau-là du spectre politique. Il est fait par le Front National, qui dit « Le scrutin majoritaire uninominal à deux tours, c'est injuste parce que nous, on a 15% des voix, on a deux élus ». Voilà. Et de ce point de vue-là, je dois dire qu'on peut difficilement les contester. Bon. Ce qui est nouveau, c'est que ce soit cette partie-là du spectre politique qui fasse le procès en illégitimité. Il faut remonter très loin pour trouver ça. Les accents qu'a pris hier Mélenchon étaient les accents du mouvement social anarcho-syndical du début du XXe siècle, quand, pour parler de la grève générale, lui, il parlait de la grève civique, hier. On disait qu'il faut faire le silence autour du pouvoir. Bon. Et cette idée qu'on va faire de la rue une arme politique et pas simplement une arme sociale a des origines historiques connues, mais lointaines en effet.
Frédéric Savicky.
Il faut quand même aussi recontextualiser les choses. C'est-à-dire que si Mélenchon et ses proches interviennent comme ça, c'est aussi que le président a annoncé comme première mesure une loi travail qu'il entend prendre par ordonnance. Donc effectivement, on pourrait se poser la question d'ailleurs, est-ce que entre le moment où la décision d'agir par ordonnance a été prise, il y avait un gros doute sur le fait que le président disposerait d'une majorité absolue aujourd'hui, est-ce que il serait pas de bonne politique, y compris pour permettre à ces nouveaux parlementaires de prendre leur rôle en main, d'assouplir les choses. Donc, au fond, moi, je lis ça aussi. Enfin, je suis d'accord avec Roland Cayrol, il y a des procès réguliers qui sont faits depuis assez longtemps, mais ils sont plus ou moins, on pourrait dire, entendus. Et ils durent plus ou moins longtemps. Ils sont plus ou moins alimentés. Je pense que l'attitude consistant à dire « la première loi, on va légiférer par ordonnance », alors les gens savent pas très bien ce que c'est ordonnance, donc il y a quand même les parlementaires vont voter quand même, ils vont pas
deux fois,
c'est pas la même chose que contribuer effectivement à élaborer une loi. Donc du coup, la réponse de Mélenchon, c'est de dire, puisque de toute façon vous ne voulez pas de débat parlementaire, enfin, en tout cas c'est son argument, eh bien je soutiendrai l'action de la rue. Voilà, je pense qu'il faut être un peu équilibré quand même dans le jugement.
Si Frédéric Savicky écrivait les discours de Jean-Luc Mélenchon, ça serait effectivement beaucoup plus civil, parce que c'est pas exactement ça.
Bah oui, mais je n'entends pas moi non plus faire une activité de conseil.
Christelle, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas Demorand,
bienvenue.
Bonsoir à tous. Voilà, je suis une électrice PS et de temps en temps écolo, mais surtout PS. Et voilà, je suis triste, dépitée, en colère, dans le même état que quand Jospa a annoncé qu'il quittait la vie politique. Et j'aimerais savoir si quelqu'un a une explication sur le fait qu'en 2012, François Hollande avait tous les pouvoirs et que, à ce jour, il n'y en a plus, avec une décomposition, avec des fractures au sein du PS. Et hier, quand j'ai entendu Benoît Hamon qui a dit « Ah, mais nous allons faire un grand banquet », alors là, je crois que ça a été le pompon et que ça m'a encore plus... ça m'a encore plus attristé, c'est même pas attristé, mais ça m'a... Voilà, j'avais l'impression que lui, je sais pas s'il s'en foutait, mais moi, en tout cas, voilà, ça m'a... Je suis toujours... je crois que... Je sais pas si je vais m'en remettre, mais en tout cas, voilà.
Et vous avez voté, là, Christelle, ou pas?
Ah oui, moi, je vote à toutes les élections. Alors, au premier... Moi, j'ai même voté 8 fois, parce que j'ai voulu faire barrage à des personnes de droite. Donc, j'ai fait les 2 primaires. J'ai voté au présidentiel blanc au premier tour. Parce qu'à Hamon, il y a des choses qui me convenaient moins. J'ai voté après Macron, non, surtout pas Macron, vraiment sans aucune hésitation, parce que voilà, il fallait faire barrage à Marine Le Pen. Et au premier tour des législatives, j'ai voté pour la candidate PS, et là, j'ai voté blanc hier. Mais en tout cas, moi, je me déplace. On est une famille où on se déplace.
Pour aller voter.
Et j'ai un papa qui est dans le même, qui a voté Macron en 2 tours. Pour faire barrage, voilà, mais qui lui hier a voté blanc parce que voilà, il est comme moi à PS et il se voyait pas aller voter Macron encore une troisième fois, mais voilà.
Merci Christelle pour votre appel. Qu'est-ce qui s'est passé, disait Christelle, en 5 ans, François Hollande avait tous les pouvoirs, avait les pleins pouvoirs, a-t-elle dit, et 5 ans après, Benoît Hamon organise un banquet en substance. Qui veut se lancer? Ah, il y a personne là autour de la table, personne ne veut y aller.
C'est-à-dire que ça fait voilà résumé en 2 minutes, c'est 5 ans que nous avons tous vécu. C'est pas très facile. Écoutez, je crois qu'il y a d'abord l'éternel problème des promesses non tenues. Tous les présidents ont été désavoués par leur propre opinion parce que la promesse, et notamment là la promesse du chômage qu'il avait en plus affirmé avec une certaine netteté dans sa campagne, eh ben on n'avait pas vu résoudre ce problème. Et puis il y a le fameux changement de cap. Hollande, au bout de quelques mois, dont certains n'avaient retenu que le discours du Bourget, ont été déçus parce que, visiblement, on entrait dans une politique plus social-démocrate, plus social-libérale. Et plus grave encore, peut-être, selon moi, il n'a jamais pris soin de nous expliquer pourquoi, comment et dans quelles conditions il changeait de politique économique. Il nous a fait refaire le coup que nous avait fait avant lui Sarkozy et avant lui Jacques Chirac de comprendre un certain nombre de réalités économiques du pouvoir et s'y adapter, tout en, parce que Mitterrand avait commencé lui aussi en 82-83, nous disant c'est la même politique qui continue sous une autre forme. Les gens n'ont pas été dupes, ils ont bien vu, et ils n'ont pas compris où on allait. Ni ceux qui avaient le sentiment, qui ont eu le sentiment que la gauche était trahie, et aujourd'hui, Hollande continue donc à être considéré comme un traître par une partie de l'électorat de gauche qu'il a soutenu pendant toute cette époque-là. Donc ni par ceux qui ont été trahis, ni par ceux qui auraient pu être d'accord et qui ne comprenaient pas exactement ce qu'il faisait. Parce que l'électorat de gauche, dans nos enquêtes d'opinion, il n'était pas aussi à gauche que le croyaient les militants et les dirigeants du Parti Socialiste. Oui. D'où une partie de leur déconvenue. Mais ni les uns ni les autres n'ont fait crédit à Hollande de ce changement de pied.
Thierry Pêche.
Alors, Hollande, en 2012, a effectivement tous les pouvoirs, contrairement à la majorité actuelle, parce qu'il a le Sénat, il a les villes, une partie des villes, les municipales,
les régions,
enfin franchement, jamais la gauche n'avait eu autant de leviers dans ses mains. Donc ça, c'est vrai qu'il partait d'un capital très lourd, très fort. Je pense qu'il y a, un vice structurel au début du mandat de François Hollande, c'est que les conditions de conquête du pouvoir sont chez lui parfaitement orthogonales aux conditions d'exercice du pouvoir. Pour le conquérir, il faut aller chercher une gauche radicale en lui promettant qu'on va pendre les banquiers à la lanterne, pour le dire de façon trop brève. Ça lui a été beaucoup reproché. Mais au fond, pour gagner, il fallait faire ça. Il fallait réunir une gauche qui était très divisée en réalité. On l'a compris après. Bon. Et une fois qu'on est au pouvoir, on atterrit. Il y a les réalités, il y a l'Europe, et il a atterri, lui, très très vite, parce que le premier Conseil européen, c'était en juin 2012, et vous savez, c'est le Conseil dont il revient en disant « j'ai pas renégocié, mais on a un plan d'investissement pour la croissance, il y a trois fois rien dedans », enfin, tout ça ne fait pas illusion. Et donc, très rapidement, les conditions d'exercice du pouvoir sont orthogonales aux conditions de sa conquête. Et il va même être amené, ou plus, il va choisir de défendre des projets de loi, des projets de réforme qui n'étaient absolument pas à l'agenda de la campagne de 2012. Moi, j'ai soutenu la loi travail, par exemple. Mais je dois reconnaître une chose, c'est que jamais les électeurs socialistes de 2012 n'avaient voté pour ça. Ils avaient commandé un frigidaire et on leur a livré une machine à laver, quoi. C'est tout à fait ça qui s'est passé. Et donc, ces distorsions... À quoi s'ajoute ce qu'a dit Roland Querol ? C'est un homme qui pensait que pour réformer, il ne fallait pas le dire. Donc il ne racontait pas ce qu'il faisait, il ne donnait pas de sens. Parce que Mitterrand, pour aller plus loin dans le passé, Roland Querol, Mitterrand avait fait en 1983 un grand virage. Mais il l'avait raconté.
Pas vraiment.
Un peu quand même.
Si, il moi, l'a je payé pense en 1986.
Bon, d'accord. Mais en tout cas, Hollande n'a rien raconté à personne.
La parole à Alain de Maison Lafitte. Bienvenue Alain.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, je pense que le parti qui a gagné les élections, quand il se présente comme représentant de la société civile, il devrait ajouter ce terme représentant d'une partie de la société civile. Parce que quand on regarde le profil sociologique de ces élus, c'est plutôt avocat, responsable de société, cadre supérieur. Mmh. Alors que la société civile, ce sont aussi les ouvriers. La société civile, ce sont les caissières de supermarchés. La société civile, ce sont les employés de banque. La société civile, c'est les employés de l'agriculture. Enfin, toute personne qui, à mon avis, ne sont pas tellement représentées dans la France en marche. Alors, j'en profite aussi pour faire une petite remarque qui s'adresse à France Inter. Cette société civile que je viens d'évoquer, elle n'est plus tellement représentée chez vous. Elle l'était avant dans une émission qui s'appelait La Bâche Légitime.
Ah oui, de Daniel Mermet.
Vendredi après-midi. Mais on n'entend plus tellement ces gens-là sur France Inter. Ça, c'était une petite remarque de la part d'un auditeur de toujours de France Inter. Merci.
Merci à vous, mon cher Alain. La parole à Étienne Ollion.
Oui, alors Alain a absolument raison. Je pense que cette campagne a été menée sur le thème d'un diptyque, en fait, renouvellement d'un côté, société civile de l'autre. Et Emmanuel Macron, d'abord, pendant sa campagne, en a fait un argument extrêmement fort, allant jusqu'à revendiquer son immaturité politique. Et puis ensuite, s'en est servi pour pousser ses candidats en invoquant cette société civile. Vous vous souvenez des 52% de personnes qui appartiendraient à cette société civile. Alors la définition était assez... on va dire douteuse, parce que il y avait dans la société civile toutes les personnes qui n'avaient pas exercé de mandat. Or, quand on regarde bien les voies d'accès les plus classiques au Parlement à l'heure actuelle, c'est pas forcément des gens qui ont eu des mandats avant, c'est aussi des gens qui ont travaillé en tant que membre de parti politique, en tant que permanent, en tant qu'auxiliaire, en tant que collaborateur, qui ont été membres de cabinet, qui constituent presque un tiers de la précédente assemblée. Et ces personnes-là étaient incluses dans la société civile. Donc il y avait évidemment un coup de com, en fait, de com politique extrêmement extrêmement clair, je pense même assez assumé d'une certaine manière, c'est pas quelque chose de particulièrement surprenant à dire. Alors, ce qui se passe quand même, ce qu'on voit, c'est que depuis l'Assemblée d'hier, on a un renouvellement très clair des visages, puisque on va avoir plus de 400, j'en ai compté 430 nouveaux députés, ce qui nous ramène à un niveau qui est le niveau de 1958. On ne peut pas faire de comparaison pour plein de raisons, en particulier parce qu'il y avait moins de personnes à l'époque, il y avait 475 députés, mais on est à peu près dans les mêmes niveaux. Donc il y a ce renouvellement-là qui va se produire. Est-ce qu'on a un renouvellement des parcours ? C'est beaucoup moins évident, parce que des personnes qui sont des vrais novices, qui n'ont jamais eu de mandat, qui n'ont jamais fait de politique de manière salariée, il y en a environ un quart dans cette nouvelle assemblée. C'est beaucoup plus que ce qu'on a eu au cours des 30 ou 40 dernières années, mais c'est le niveau de 1970. Donc ça, de ce côté-là, il y a déjà un premier changement qui, avec le fait qu'il y ait beaucoup de sortants qui ne reviennent pas, va à mon avis modifier pas mal de choses dans la manière dont va fonctionner cette assemblée. On a évoqué tout à l'heure le côté un petit peu orner les vieilles pratiques, les codes avec un autre auditeur. Bon, là, je pense en effet qu'avec des nouveaux visages vont arriver aussi de nouvelles pratiques. Hein. On a vu ce que faisaient arriver des nouvelles personnes dans des parlements autres, en Espagne, par exemple, Podemos. Et je pense qu'on va avoir un changement et que des personnes qui avaient un peu pris leurs habitudes, pris leurs aises, qui avaient pris le mandat et qui s'en servaient comme on devient maître et possesseur d'une fonction, ne seront plus là. Et donc, ça va changer des choses.
C'est 150 novices, ils sont sous quelle étiquette ?
Il y en a principalement qui viennent à travers l'étiquette La République En Marche. J'ai pas eu le temps de tous les voir. Ceci étant dit, il faut pas non plus jeter la pierre. Enfin, faut faire attention à ce qu'on appelle novice, parce que vous avez dans les gens qui sont élus, souvent des gens qui sont élus en mandat local, qui vont cumuler des mandats locaux pendant longtemps, mais qui n'en vivent pas, qui ont une activité à côté. Et donc, c'est à mon avis derrière cette étiquette, il y avait un coup de com plus qu'il y avait vraiment quelque chose.
En quelques mots, le discours qu'on a entendu pendant la campagne, qu'on a beaucoup entendu hier chez les primo-députés, enfin ceux qui arrivent à l'Assemblée pour la première fois, nous allons faire de la politique différemment, nous ne sommes pas les mêmes, nous allons nous couper de cet héritage, nous ne sommes pas des professionnels, etc. etc. Ça semble assez pauvre, non ? Je sais pas, il faut peut-être attendre, mais Étienne Ollion, non ? Encore un mot ?
Surtout, il me semble très rapidement que, en l'absence d'une vraie réflexion sur les conditions dans lesquelles on fait de la politique, le financement des partis, l'organisation des médias, la constitution et tout un tas d'autres règles, on est dans une situation où les mêmes causes vont produire très probablement les mêmes effets.
Et c'est 10 secondes chacun, je suis désolé, Thierry Page.
En 10 secondes, il y a un vrai renouvellement, au moins sur un point, il y a 40% de femmes, 38 exactement, et il y avait 40% de femmes candidates. En 2012, il y avait déjà 40% de femmes candidates, mais elles n'étaient pas en position d'être élues. Et ça a quand même beaucoup changé. Il y a un Parlement plus jeune, plus féminisé. Il y a des novices, il y en a moins que prévu, c'est sûr, mais tout de même.
Roland Quayrolle, un mot.
Pour moi, l'inconnu de la politique, selon Macron, c'est comment est-ce qu'on peut faire avec la Ve République, voire hyper-présidentialisée et jupitérisée, et en même temps relancer la démocratie dans ce pays, et une démocratie plus participative et plus ouverte aux citoyens. Professeur, ça, je ne le sens pas encore.
Professeur Savicky, un mot rapide.
Ce qui sera très intéressant de regarder, c'est à qui Emmanuel Macron va confier les responsabilités au sein du Parlement, ce qui va lancer des novices justement à des positions importantes, parce que le Parlement, ça fonctionne selon des règles assez lourdes et très codifiées, effectivement. Il y a des règles de séniorité, il faut être ancien pour occuper des postes importants, pour rapporter. Et à mon avis, ça ne peut se faire qu'à condition de mettre en place un vrai appareil aussi de formation. Pour l'instant, on verra un peu ce que donne effectivement la mise en place de cette nouvelle structure politique qui est en marche.
Mais ça va être passionnant à suivre. Merci à tous les quatre, le journal à suivre.